Albert Sim, La fée par le mail. Où, à quelque chose, malheur est bon. Chaque matin, notre voisin, le père Husseneau, passait sous nos fenêtres en conduisant à l'école sa petite nièce Thérèse. Le père Husseneau, alors âgé de 75 ans, demeurait dans notre rue du Tribel, presque en face de notre maison. Il avait élevé bien des neveux et nièces, sans compter ses propres enfants, et arrivé à ce grand âge, n'avait pas hésité à se charger encore d'une petite orpheline, Thérèse Pellegrin, que le ciel lui envoyait. C'était la fille d'un de ses neveux, ouvrier tisseur, emporté en quelques jours par une fièvre typhoïde. Elle entrait alors dans ses 5 ans. L'année précédente, Thérèse avait perdu sa mère. Depuis longtemps, tous ses oncles, tantes et cousins avaient quitté le pays. Elle ne possédait donc plus que son grand-oncle Husseneau pour lui tenir lieu de famille et chez qui se réfugier. Le pauvre vieux, qui était tout dévouement et tout cœur et portait à sa petite Thérèse une maternelle tendresse, s'efforça d'avoir pour elle toutes les attentions, les menus soins et les exquises délicatesses d'une vraie mère. Tous les matins, après avoir lui-même gentiment peigné, proprement habillé, il l'amenait à l'école communale, installée dans l'ancien château, et je les vois encore passer ensemble devant chez nous, la main dans la main, lui le visage bruni et ridé, le dos voûté, elle avec ses cheveux blonds bouclés et son teint rosé blanc, éblouissant de fraîcheur. Thérèse faisait l'admiration des habitants de notre quartier, et souvent ma tante Victorine ou notre vieille servante Julie m'appelait pour contempler la grâce, l'élégance et la bonne mine de cette fillette. « Viens donc voir notre petite voisine, la voilà qui sort avec son oncle. Comme elle est jolie, comme elle est avenante et pimpante, et elle est sage, elle obéit toujours bien. » Sans cesse, on me la citait comme exemple. Si l'on s'extasiait devant l'enjouement et les charmes de l'enfant, on n'oubliait pas l'oncle. On ne méconnaissait pas ses grandes qualités, son courage, sa vaillance, l'affection et l'abnégation dont il avait voulu toute sa vie faire preuve envers les siens. Il était renommé dans toute notre ville haute pour sa loyauté, sa probité. Indigne homme que le père Husseneau, c'était le mot par lequel chacun résumait son opinion sur lui. Il travaillait encore et ferme malgré son âge, car dans sa vie de lutte, de tracas et de privation, il n'avait jamais trouvé le loisir de se réserver quelque chose pour lui, un peu de pain pour ses vieux jours. Et tous ses maigres gains s'en étaient allés de ci, de là, avaient servi à élever, soigner, aider ou établir cette séquelle de neveux et de nièces que les circonstances avaient à présent éloignés de lui ou que la mort lui avait ravi. Il était employé chez un gros marchand de ferraille et de chiffons de la rue de Véel, chez M. Gommel. Et lorsqu'il n'était pas occupé à ranger et trier dans le magasin de ce négociant, il parcourait les rues de la ville avec sa voiture à bras et chargeait, transportait les marchandises achetées ou vendues par son patron. Si jusqu'alors le père Husseneau s'était peu ému de sa pauvreté et l'avait allègrement supportée, il n'en était plus de même depuis que sa petite nièce vivait auprès de lui et qu'il fallait penser à son avenir et assurer son sort. « Que deviendra-t-elle après moi ?» se demandait-il souvent. « À qui l'a confiée ? Oh, moi j'ai bien mes deux neveux, Julien et Martial, ses oncles qui habitent Paris. Mais ils sont surchargés tous les deux de famille et crient sans cesse misère. Il en est de même de ma nièce Léonie. Oh, si j'étais moins âgé !» Si je pouvais espérer encore 12 ou 15 ans d'existence, de bonne santé et de travail, je n'aurais pas ce terrible souci de m'en aller sans avoir élevé et casé cette chère petite. C'était là la constante préoccupation, le continuel tourment de l'excellent homme. Un soir d'été, qu'il avait une course à faire avec sa voiture à bras, il résolut d'aller en même temps chercher Thérèse à l'école. Il était 5 heures, c'était justement l'heure de la sortie de la classe. Il prit l'enfant et la mit dans sa voiture afin d'aller plus vite, car de lourds nuages voilaient le ciel et des gouttes d'eau commençaient à tomber. Pour que Thérèse ne fût pas mouillée, il étendit une bâche au-dessus d'elle, et grâce au mouvement cadencé du véhicule, aussi bien qu'à l'accablante chaleur de la température, la fillette ne tarda pas à s'endormir. Près d'elle étaient empilées des bouteilles vides que le père Husneau avait reçu mission d'aller quérir. Comme il atteignait le petit pont situé au bas de la côte du Roal, à quelques pas de la mairie, un tourneur et fabricant de chaises, en train de travailler dans son atelier, l'aperçut et l'appela. « Père Husneau, j'aurai une commission à vous donner pour M. Gomel. Entrez donc une minute. » La minute dura près d'un quart d'heure, et lorsque le père Husneau sortit, quels ne furent pas son étonnement et son émoi. La voiture n'était plus où il l'avait laissée, dans l'angle du pont. Elle avait disparu et Thérèse avec elle. Il eut beau regarder de tous côtés, dans toutes les rues et ruelles adjacentes, s'informer auprès de tous les voisins et passants, il ne découvrit nul indice, n'obtint aucun renseignement capable de le mettre sur la trace du voleur. Car on lui avait volé sa voiture, il n'y avait pas de doute. Mais elle n'est pas tombée dans le canal, elle n'aurait pas pu franchir d'elle-même le parapet, s'écriait-il avec désespoir. Elle s'est pas envolée toute seule, oh mon Dieu, mon Dieu! Bien, c'est peut-être simplement une plaisanterie que des gamins vous ont faite, père Husneau, insinua le fabricant de chaises. Une plaisanterie? Oui, c'est mon avis. Drôle de plaisanterie. Mais en admettant, une voiture est pas facile à cacher. Où l'aurait-il mise? Cela se fourre pas dans la poche. Non, non, c'est bien un voleur, allez, répliqua le père Husneau de plus en plus anxieux et affolé. Il ne se trompait pas. Un garnement, en passant par là, avait aperçu cette voiture privée de conducteurs et chargée de bouteilles. L'occasion lui avait paru propice. Il s'était imaginé que toutes ces bouteilles étaient pleines de bon vin ou de liqueur, et il s'était vite attelé au brancard et avait filé grand air. Ce n'est qu'arrivé hors de la ville, dans la partie que l'on nomme le faubourg de Marbeau, qu'il osa s'arrêter et vérifier le contenu de la carriole. Les bouteilles étaient vides. « Volées !» s'exclama le voleur avec colère. « Oh ben c'était bien la peine !»« Et sous cette bâche, qu'y a-t-il ?» En découvrant la petite fille qui dormait là comme dans son lit, il n'en demanda pas davantage, et sans se préoccuper de ce que deviendrait cet enfant, il se hâta de déguerpir. Il faisait nuit lorsque Thérèse s'éveilla. L'orage menaçait de plus en plus. Des éclairs sillonnaient le ciel à tout instant. Des roulements de tonnerre emplissaient de leur fracas l'étroite vallée. Mais la pluie ne tombait toujours que goutte à goutte, comme à regret, sans parvenir à rafraîchir l'air. Thérèse eut peur au milieu de ces ténèbres, presque sans cesse traversées par de fulgurantes lueurs, et au milieu de ces retentissants et sinistres grondements. Elle se mit à pleurer et à appeler son oncle, puis essaya de descendre de voiture. Elle y réussit, mais comme elle posait le pied à terre, le chargement bascula et toutes les bouteilles vinrent se briser avec un bruit terrible contre un mur qui bordait la route. Les pleurs de l'enfant redoublèrent, toujours entrecoupés par ses cris « Mon oncle, mon oncle !» Une porte, percée dans le mur tout près de là, s'ouvrit, Une voix de femme se fit entendre. « Qu'y a-t-il ?» Ne recevant pas de réponse, la femme s'avança et aperçut Thérèse. « Mais que fais-tu donc là, toute seule, petite ?» Thérèse alors de geindre, de sangloter de plus belle. « Mais à qui cette voiture ? Mais comment te trouves-tu ici à cette heure ? Où sont tes parents ? Est-ce que tu as mal, dit ? Tu es tombée ?» Une autre voix de femme vint interrompre ces questions auxquelles l'enfant ne répondait que par ses soupirs et ses larmes. « Perrine, où êtes-vous donc ? Que se passe-t-il ? Madame, c'est une petite fille qui est sur la route. »«
Une petite fille ?
Mais ce vacarme que nous avons entendu ? Oh, sans doute cette voiture qui s'est renversée. « Distingue pas très bien. Oui, il y a des bouteilles cassées, là, tout un monceau de bouteilles. Et cette petite fille est seule ? Oui, oui, madame, comme si on l'avait abandonnée. Mais amenez-la, Perrine, faites-la entrer. C'est pas un temps resté dehors. Viens, ma mignonne. »
La femme prit Thérèse par la main, lui fit traverser une cour, puis un vestibule, et l'introduisait dans un petit salon en rotonde, luxueusement meublé, à demi éclairé par une lampe placée sur un guéridon de marbre. C'était la demeure de la comtesse de Parlemaille. Veuve, sans enfant et alors âgée d'une cinquantaine d'années, Madame Lydie de Parlemaille se consolait de son isolement par la pratique des bonnes œuvres et était considérée comme la providence du rustique faubourg de Marbeau. Pour la désigner, les pauvres gens de ce quartier disaient volontiers « la bonne dame ». Cela suffisait, on savait de qui il était question. Dans la ville, on l'avait baptisée « la reine de Marbeau » ou encore « la fée Parlemaille ». Sa maison, une élégante villa, une sorte de petit château, que son mari avait fait construire, s'élevait au-delà du faubourg devant un joli jardin auquel attenait une immense prairie arrosée par le ruisseau de Naïve ou Naveton. Madame de Parlemaille entreprit à son tour d'interroger Thérèse, mais ses questions n'obtinrent guère meilleur résultat que celle de sa servante.
« J'étais avec mon oncle, il m'avait assise dans la voiture. »
« Et que fait-il ton oncle ?» demanda Madame de Parlemaille.
« C'est pas, madame,
bégaya Thérèse.
« Où demeure-t-il, ma chérie ? Là-bas, derrière l'église. »
« Mais quelle église ?
L'église ?
Comment t'appelles-tu ?
Thérèse ? Et ton papa ? Dis, mon trésor, comment se nomme-t-il ton papa ? Réponds donc, mon petit chou, n'aie pas peur,
reprit Madame de Parlemaille, qui adorait les enfants et avait toujours pour eux de tendres caresses et de gentils noms.
C'est mon oncle.
Voyant qu'elle ne pouvait tirer rien de bien clair de cette pauvre petite, Madame de Parlemaille remit au lendemain la suite de l'interrogatoire et changea de discours.
« As-tu soupé, ma mignonne ?»
Thérèse remua la tête en signe de négation.
« Tu as faim ?»«
Oui, » dit-elle d'une voix nette et hochant la tête de haut en bas.
« Eh bien, Perrine, vous allez servir à manger à cet enfant, puis nous la coucherons. »
Le lendemain, en sortant de la messe de 7 heures, à laquelle elle avait coutume d'assister chaque matin, hiver comme été, la bonne dame de Marbeau, ou la fée Parlemaille, se rendit au commissariat de police pour faire sa déclaration relativement à l'enfant trouvé la veille devant sa porte. Le commissaire, M. Poustor, devina sur le champ et sans peine de qui il s'agissait. Le soir précédent, avant de regagner sa demeure, le père Hucheloup, bouleversé, désespéré, était allé se plaindre à lui de la disparition de sa voiture et de ce qu'elle contenait, et de sa petite nièce, sa chère petite Thérèse, qui s'était endormie, blottie sous une bâche. M. Pousteur envoya aussitôt un de ses agents chez le père Housseneau pour le tranquilliser, et midi n'était pas sonné que l'alerte vieillard, accourant de toute la vitesse de ses jambes, arrivait chez Madame Pardemaille. Celle-ci le connaissait tout au moins de vue et de nom, pour l'avoir maintes fois aperçu dans les rues, et oui, appelé par les clients de son patron du riche marchand de chiffon de la rue de Véel. « Alors, c'est à vous, cette petite fille-là, père Husneau, dit-elle après les premiers moments d'effusion entre l'oncle et la nièce. « Oui, madame, c'est la fille de mon neveu, Louis Pellegrin, qui est mort en avril dernier, juste un an après sa femme. La pauvre gamine n'a plus que moi, hélas. Et elle ne vous aime pas du tout, j'en suis sûr, ajouta en badinant madame de Parlemaille. Elle ne tient nullement à s'en aller avec vous et ne demande qu'à rester ici. N'est-ce pas, Thérèse ? En guise de réponse, la fillette se suspendit au cou de son oncle. « Oh, que nenni !» répliqua le père Husneau, tout rayonnant avec une larme d'attendrissement dans un coin de l'œil. « Oh, monsieur, monsieur, elle m'aime bien !»« Alors, tu ne veux pas demeurer avec moi ?» reprit madame de Parlemaille. « C'est bien décidé. Tu préfères te retourner avec ton oncle ?» Thérèse acquiesça énergiquement. « Eh bien, je consens à te laisser partir, » continua l'âme de Parlemaille. « Mais à une condition, tu reviendras me voir. Tu voudras bien revenir me voir ?»« Oui, madame, » murmura l'enfant. « Vous entendez, père Husneau, il faudra m'amener de temps à autre cette petite. Le jeudi, par exemple, quand elle ne va pas à l'école, elle pourrait venir passer la journée chez moi. Si cela vous dérange de la conduire vous-même, je l'enverrai chercher par ma voix domestique, son amie Perrine, car elles sont déjà ensemble dans les meilleurs termes. » À dater de cette époque, en effet, Thérèse devint la protégée de la bonne dame de Marbeau. Tous ses jours de congé se passaient au château de Pardemaille, tantôt à coudre ou à jouer auprès de la maîtresse du lieu, tantôt à aider la servante Perrine dans ses menus travaux, à aller avec elle donner à manger aux poules et aux lapins, étendre le linge au grenier, préparer ensuite la pâtée de Monsieur Mimi, ou bien s'occuper de la volière où Madame de Parlemaille s'était plu à renfermer quantité de canaris, de chardonnerets, de Bouvreuil et de Lineau. Quand, 18 mois plus tard, le père Husneau, d'une salité atteint d'une fluxion de poitrine, et vit la mort approcher, il eut du moins, en expirant, la suprême consolation de ne pas laisser sa petite Thérèse seule au monde, de se dire que madame de Parlemaille était là, pour veiller sur elle, la recueillir comme elle l'avait fait naguère, durant cette nuit d'orage. Ainsi, la coupable action de ce vaurien, qui, en dérobant la voiture du père Husneau, s'était leurré de l'espoir d'une misérable aubaine, eut un contre-coup inattendu, le plus salutaire et le plus précieux résultat. À quelque chose, malheur est bon. La petite orpheline quitta donc notre rue de Tribelle pour aller vivre à Marbeau, chez la comtesse de Parlemaille. Élevée près d'elle et sous sa direction, elle s'attacha de plus en plus à cette excellente dame, à qui elle s'efforçait sans relâche de témoigner sa reconnaissance, sa tendresse et son dévouement. À son tour, madame de Parlemaille se sentait de plus en plus attirée vers cet enfant, la considérait peu à peu comme sa fille adoptive, et la traitait en conséquence. Elle ne se borna pas à faire de Thérèse une jeune personne instruite et distinguée, elle l'associa à ses bonnes œuvres, l'emmenant avec elle dans ses visites aux indigents, lui apprenant à la seconder dans ses soins aux vieillards et aux malades. Et Thérèse Pellegrin a non seulement hérité de la fortune de sa bienfaitrice, elle lui a succédé dans sa charitable et généreuse mission. Et c'est elle aujourd'hui qu'on nomme la Providence de Marbeau. C'est elle qui est devenue la fée par le mail.